Escapade
et vous.
En studio
ou en balade autour d'un micro,
l'émission qui vous donne la parole.
Escapadez-vous.
Les initiatives locales se racontent à l'antenne.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette Escapadez-vous, où on va aujourd'hui donner la parole à ceux qui écrivent la presse. Et oui, la presse papier, libre et régionale, ça existe. C'est par exemple le cas du journal L'Empaillé. Une presse de journalisme libre et indépendante, c'est possible, et ce malgré les difficultés financières ou les tourmentes politiques qui menacent de plus en plus tous les secteurs culturels et ou militants de l'Hexagone. À l'occasion donc de la sortie dans les kiosques du dernier numéro de L'Empaillé pour cet automne 2025, on va essayer de mettre la lumière sur le travail et la vie quotidienne d'un journal de ce genre, un trimestriel dont les articles et enquêtes nourrissent souvent certains de nos programmes, par exemple les Nouvelles du Monde. Et c'est avec Nina que l'on va s'entretenir, une des participantes à ce bel exemple d'entreprise collective. Elle va nous donner en exclusivité les sujets des articles disponibles dans leur nouveau numéro. Et on en profitera aussi pour rappeler l'importance de la presse libre, pour essayer de comprendre comment tient malgré tout cette économie aussi précaire. Et enfin, pour évoquer par exemple le procès que la mairie de Perpignan, étiquetée extrême droite, leur intente, comme malheureusement c'est le cas avec de nombreux autres médias souvent étiquetés trop à gauche pour les pouvoirs en place. Mais commençons par le commencement avec le démarrage de ce journal L'Empaillé.
Alors L'Empaillé, c'est un journal qui a vu le jour en 2016 en Aveyron. Donc à la base, il y avait une petite bande de potes motivés pour faire un journal qui parlerait des luttes sociales dans le département de l'Aveyron. Donc pendant les trois premières années, ça a été, il y a eu une forme un petit peu aléatoire de parution, c'est-à-dire que quand il y avait de la matière suffisante pour éditer un numéro, on allait le publier. Donc il y a eu comme ça 9 numéros qui sont sortis. Et en 2020, on a décidé de s'élargir pour avoir un format régional. Cette envie, elle a surgi du fait que, entre-temps, dans cette bande fondatrice de l'Aveyron, il y a des gens qui ont déménagé et qui vivaient en Ariège, dans l'Aude, à Toulouse. Et ça avait de moins en moins de sens de rester que sur des luttes aveyronnaises. Donc on a mis le journal en pause pendant 6 mois et on a lancé donc un journal régional qui a pris... d'abord tous les départements de l'Occitanie. Et puis l'année dernière, on a encore fait un agrandissement encore plus grand pour arriver aujourd'hui à 26 départements, donc avec une partie de la région Auvergne-Rhône-Alpes, une partie de la région Nouvelle-Aquitaine et la région Occitanie.
Donc c'est un journal qui est un journal papier, on l'a peut-être dit au début, mais qui se distribue donc en kiosque et aussi dans des lieux, des librairies, des cafés asso, des lieux militants, etc. Vous l'avez diffusé donc sur toute cette zone?
Oui, tout à fait. Donc on est disponible effectivement que dans les lieux que tu as dit et sur abonnement. Et ce réseau parallèle, nous on l'appelle notre réseau d'autodiffusion, ça a été vraiment un grand chantier de ces dernières années. On a vraiment eu à cœur d'être diffusé dans les lieux un peu du quotidien des personnes, c'est-à-dire voilà, les petites épiceries, les cafés associatifs, les librairies militantes. Et on a mis 4 ans. À construire ce réseau d'autodiffusion qui aujourd'hui comporte quasiment 500 lieux qui sont aujourd'hui essentiels pour l'économie de L'Empaillé, parce que c'est vrai que les ventes en kiosque, c'est malheureusement extrêmement tributaire de la bonne volonté des kiosquiers et de leurs affinités politiques, c'est-à-dire que si les personnes ne sont pas sensibles à ce que nous on exprime, on va très vite être caché derrière d'autres parutions ou pas du tout mis en avant. Et c'est vrai que si notre économie était basée que sur les kiosques, je pense qu'on aurait coulé depuis un petit moment.
Alors peut-être on peut du coup parler un petit peu de l'économie de la presse là, puisqu'on y est. Donc c'est un journal qui coûte 4 euros, ce qui n'est pas beaucoup hein, vu sa taille déjà, ne serait-ce que par l'objet et surtout par le contenu, parce qu'il y a beaucoup d'enquêtes, d'articles de fond, etc. On imagine bien du coup que vous n'êtes pas salarié de L'Empaillé, si je ne dis pas de bêtises. Ou il y en a un petit peu quand même, vous arrivez à dégager ça?
Bah, on a réussi à créer des postes. Donc on a environ entre 2 et 3 postes à temps partiel de journalistes qu'on fait tourner entre les différentes personnes qui passent au chômage et puis qui reprennent des petits contrats. Donc on a quand même une base où on a réussi à avoir un peu de salariat. Mais évidemment, c'est encore fragile et on ne peut pas tous se salarier à plein temps et de manière durable.
Et d'ailleurs, peut-être que les gens qui écrivent dans l'Empaillé ont aussi d'autres activités à côté auxquelles ils tiennent. Et j'imagine que ça fait partie de votre vie, mais il y a d'autres choses aussi dedans. Ce qui permet aussi de ramener des fois des récits dans les colonnes.
Tout à fait. Moi, je suis vigneronne. À côté d'être journaliste, il y a une autre personne qui est également paysanne vigneronne aussi. On en a un qui est boulanger. Donc on a tous un peu nos activités à côté, ce qui fait que l'Empaillé a aussi une sensibilité assez axée vers les luttes paysannes, parce que c'est aussi nos quotidiens et c'est aussi ce qu'on vit. Et on a des appartenances syndicales à la Confédération paysanne pour la plupart. Donc c'est vrai qu'on se sent proche des luttes rurales et paysannes.
Moi je trouve que c'est un peu ce qui fait la spécificité de votre journal aussi, c'est qu'on retrouve des thématiques effectivement sociétales qui émanent. Donc dans votre édito, vous faites carrément des références à l'autonomie italienne, enfin à des luttes sociales en tout cas très ancrées. C'est plutôt des choses d'habitude qu'on trouve en ville entre guillemets, où il y a des milieux très politisés, etc. Mais du coup d'arriver à combiner ça avec un ancrage territorial, comme on dit maintenant, en tout cas régional, c'est assez original, je trouve. Et c'est peut-être ce qui fait justement la force de ce journal, de proposer des histoires particulières qui se passent dans des petits villages auxquels finalement tout le monde peut se référer aussi et qui racontent d'autres histoires que celles des villes.
Tout à fait. Et puis il y a aussi, je pense que dans notre mode de fonctionnement, il y a aussi quelque chose qui est assez particulier, c'est que vraiment l'Empaillé, c'est un journal participatif et que nous, on fait beaucoup d'accompagnement à l'écriture, c'est-à-dire qu'il y a environ, je pense, un quart du journal qui est rédigé par les membres du comité de rédaction, les 5 ou 6 membres du comité de rédaction, mais après, vraiment, les 3/4, c'est des propositions que des personnes nous envoient par mail parce qu'ils ont envie d'évoquer une situation qu'ils traversent, soit une lutte contre un méga-projet à côté de chez eux, soit effectivement des problématiques paysannes ou des problématiques syndicales. Et nous, après, on va les accompagner avec un système d'aller-retour entre des membres du comité de rédaction qui sont un peu plus aguerris à l'écriture et ces personnes qui souvent ne maîtrisent pas tout. Mais ensemble, on échange des outils. Il y a vraiment une volonté de faire de l'éducation populaire et d'arriver ensemble à accoucher d'un article journalistique. Et ça marche parce que souvent, les personnes qui ont écrit une fois reviennent plus tard avec un autre sujet et petit à petit s'approprient aussi l'Empaillé comme un outil pour faire entendre leur voix et leur lutte.
Est-ce qu'on peut, avant de continuer la discussion sur le fonctionnement, évoquer un petit peu les articles de ce nouvel numéro? Parce qu'on ne l'a pas dit encore, mais on avait aussi décidé de faire cette discussion parce qu'il y a la sortie du numéro d'automne de l'Empaillé. Est-ce que tu veux nous présenter un petit peu les quelques grandes lignes de ce qu'on peut lire dedans?
Bien sûr. Alors, on a fait un dossier sur les municipales qui vont venir... Donc bien sûr, au mois de mars, là, très prochainement, et sur les listes citoyennes avec différents exemples donc dans la région, des exemples qui plus ou moins heureux, parce que aussi on a une volonté de ne pas être dans l'utopie et de dire que tout est génial et que voilà, mais c'est des papiers qui sont, je pense, honnêtes et sincères sur tout ce qui est possible de faire bouger quand on décide de s'impliquer au niveau municipal dans sa commune, mais aussi les problématiques qu'on rencontre et les blocages institutionnels, les blocages au niveau de la discussion, du consensus. Donc je pense que ça, finalement, cet ensemble d'articles, parce qu'il y a quatre points de vue différents dans quatre endroits, ça peut permettre de faire une synthèse et faire en tout cas une base très intéressante pour des gens qui souhaiteraient, qui se questionnent sur le fait de s'impliquer ou pas dans des listes pour les prochaines élections. Donc ça, c'était un premier gros dossier qu'on a fait dans ce numéro. Ensuite, il y a aussi toute une partie. On est revenu sur l'incendie qu'il y a eu dans les Corbières cet été en août. Là, il y a 17 000 hectares qui ont brûlé dans les Corbières. Alors pourquoi on a fait ça? C'est aussi parce qu'on est deux du comité de rédaction à vivre, dont moi, à vivre dans ce territoire, donc à vivre dans des villages qui ont brûlé, à avoir perdu des terres agricoles, à avoir, à vivre dans un paysage totalement dévasté. Mais on a décidé de l'aborder sur le point de vue de la reconstruction. Et maintenant que cet incendie a fait une table rase quand même assez effrayante et totale de la nature, comment on rend ce territoire habitable, plus résistant pour le changement climatique à l'avenir, comment on replante, comment on ressème, qu'est-ce qu'on imagine? Donc en fait, on a décidé d'avoir une focale vraiment sur la reconstruction et sur toutes les initiatives un petit peu solidaires qui se mettent en place après le feu. Voilà. Et après, sinon, on a fait aussi un petit retour sur les mouvements sociaux qui ont eu lieu début septembre. Alors là, vraiment, c'est un format participatif, c'est-à-dire qu'on a demandé aux lecteurs et lectrices de nous envoyer soit des photos qu'ils avaient prises en manifestation le 10 septembre, mais aussi le 18 septembre et toutes les manifestations qui ont suivi, soit des photos, soit des dessins, soit des textes, ce qui nous permet d'avoir il y a quatre pages de témoignages qui viennent vraiment des quatre coins, de Limoges, de Toulouse, de Montauban, de Rodez, voilà. C'est beau de voir aussi qu'est-ce que ça a pu bouger au niveau émotionnel, dans les élans, dans les déceptions. On maintient qu'on veut vraiment que ce journal, ça soit aussi un endroit où les gens aient la place de s'exprimer.
Tu as évoqué la photo et l'art en général, ça occupe une place malgré tout, ça occupe une place en tout cas depuis le début dans votre journal. C'est pas que du texte et des brèves, il y a aussi de la place pour des moments plus poétiques, il y a même de la fiction souvent, j'ai vu, des chroniques musicales. Vous avez essayé de garder en tout cas une ligne éditoriale assez large aussi, où il y a aussi justement les pages culture, des choses comme ça, mais qui sont évidemment avec votre regard à vous.
Ouais, et c'est très important parce que nous, on a à cœur de travailler avec des illustrateurs et illustratrices. Bon, malheureusement, quand je dis travailler, c'est on est encore dans du bénévolat, que ce soit pour les contributions écrites ou les contributions d'illustration ou de photographie. Mais c'est important pour nous que ce soit un bel objet. Parce qu'il y a aussi des savoir-faire, des talents et des propositions artistiques qui sont très fortes. Et on a envie de faire de présenter aussi des travaux de photographe. Il y a toujours une double page avec un portfolio, des photos pleines pages, parce que c'est beau aussi d'avoir une aération. Et c'est vrai que c'est ce qu'on pouvait reprocher, entre guillemets, à pas mal de journaux militants, c'est que c'est souvent beaucoup axé sur le contenu, qui peut être très riche, mais peu sur le graphisme. Et moi, je trouve que c'est important aussi d'avoir des choses aérées, des choses belles, parce qu'il y a de l'émotion et il y a du sens et qui peut passer aussi par cet aspect visuel. Et effectivement, donc on fait aussi une place à la poésie, à la fiction, mots croisés, chroniques musicales, chronique de lecture, parce qu'on est tous des individus qui sont la somme de tout ça. On n'est pas que des militants ou que des paysans, on est aussi des lecteurs, des lectrices et des amateurs d'art.
Ouais, mais je trouve ça intéressant parce que ça questionne justement le rapport qu'on a aux journaux papier aujourd'hui, avec justement l'arrivée de l'internet depuis, et ça met une forme un petit peu intemporelle, je trouve, dans ces objets, qui permet effectivement de les lire, parce qu'il y a du fond, des articles un petit peu de fond, justement, qui vont aller chercher des histoires longues. On sait aujourd'hui, l'info, elle nous arrive très vite. Enfin, s'il se passe une manifestation, un scandale, je ne sais quoi, on est au courant quasiment le jour même, grâce aux médias qui communiquent notamment sur les réseaux sociaux. Et du coup, j'imagine que faire un journal papier, ça prend pas mal de temps. Donc il y a forcément un décalage entre le moment où on veut parler d'un truc et le moment où ça va sortir. Et ça ne doit pas être évident d'arriver justement à jauger ça et à se dire qu'il ne faut pas faire un article qui sera finalement presque obsolète dans 2 mois. Je pense que ça re-questionne pas mal de pratiques, et j'ai l'impression que les journaux qui durent un petit peu ont justement ce point commun d'aller chercher des fois des témoignages un peu plus longs, justement, qui permettent d'avoir du recul sur des événements.
Oui, ça c'est sûr, qu'à chaque fois, au bouclage, c'est arrivé plein de fois que pile les 3 jours de bouclage, ça soit en plein milieu d'un moment hyper important. Je me rappelle, on a fait un bouclage pendant Sainte-Soline, par exemple. Et donc, on n'avait pas... on avait peut-être fait une petite colonne sur, pour annoncer la manifestation, mais tout ce qui s'est passé, ça s'est passé pendant le bouclage. Et je pense qu'on est obligé d'accepter le fait qu'il y a des choses qui ne vont pas figurer dans le journal, ou alors peut-être dans l'édito, qui est toujours ce qu'on écrit un peu en dernier, où on peut faire des allusions à vraiment l'actualité brûlante. Mais après, bon, c'est vrai que nous, avec notre temporalité trimestrielle, on n'a pas vraiment le choix que de plutôt miser sur le fond et sur le fait qu'on va, à travers les articles qu'on va essayer de mettre en avant, on va toucher à des choses qui sont pas intemporelles, parce que ce serait prétentieux, mais en tout cas qui sont amenées à durer dans le temps et qui feront écho quand même 3 mois après, 6 mois après, 1 an après, quand on va les lire.
Alors Nina, pour toujours continuer à évoquer ensemble le journal L'Empaillé avec son nouveau numéro là, d'automne qui vient de sortir, j'aimerais qu'on aborde maintenant l'aspect enquête, parce que donc on l'a compris, c'est un journal riche et multiple de formes, mais il y a quand même du journalisme dedans et du journalisme qui va vraiment aussi investiguer des fois. Il y a des gros dossiers, on va dire, régionaux sur lesquels vous êtes assez justement expert maintenant, sur lesquels vous avez pas mal travaillé. On peut parler des transformations qu'on peut voir en Occitanie, tout ce qui est lié notamment aux transitions énergétiques, aux photovoltaïques. Et vous vous êtes aussi souvent accroché avec, on va dire, une partie de la classe politique plutôt d'extrême droite. La main mise sur les médias, je sais que vous avez eu pas mal d'accrochages avec la Dépêche, dont vous critiquez pas mal la ligne éditoriale, et puis globalement aussi l'historique de la famille. Et là, vous êtes en ce moment même justement sur un de ces articles plutôt lié à la ville, à Perpignan, pardon, avec Louis Alliot. Oui, c'est ça. Et donc, vous avez fait un article là-dessus qui n'a pas plu.
Tout à fait. Donc, on a publié un article il y a 2 ans qui s'appelait « Purge sur la ville » et où on dénonçait un petit peu donc la gestion municipale de Louis Alliot sur la mairie de Perpignan. Et notamment, on parlait pas mal de la police municipale de Perpignan, de ses méthodes. Et donc, on a, dans le cadre de cet article, employé le mot « caïd » pour désigner le chef de la police municipale de Perpignan. Et ce mot de caïd, il nous a valu, enfin il nous vaut toujours d'ailleurs d'avoir été attaqué donc par cette même personne pour injure. Donc la procédure a été enclenchée. On devait passer l'audience, ça devait être mercredi dernier, le 16 octobre, jeudi dernier, pardon. Mais la partie adverse a annulé. A demandé le report de l'audience 3 jours avant. Bon, c'est quand même un petit peu un comble parce que c'est eux qui nous attaquent, ça fait 2 ans que la procédure est lancée, et 3 jours avant, ils se rendent compte qu'ils ne sont pas prêts. Donc ça veut dire qu'ils n'ont rien préparé. Parce qu'en fait, c'est typiquement, ce qui nous arrive, c'est typiquement une procédure bâillon, dans le sens où ils savent qu'ils ne vont pas vraiment gagner parce que c'est pas. Enfin, un argumentaire, c'est très facile à démonter. Caïd, c'est pas une insulte. Voilà, c'est ce qui est. C'est totalement admissible dans le spectre d'une critique modérée, écrite d'une personne. Il y a même des moments où ce mot ne pourrait même pas être péjoratif. Mais en tout cas, d'ailleurs, ce directeur de la police municipale, il est coutumier du fait, vu qu'il a déjà attaqué le Média Blast pour les mêmes raisons, parce qu'ils avaient dit que la police municipale de Perpignan était une milice. Donc pareil, il s'est servi du terme milice pour les attaquer. Il a perdu. Donc là, il y a vraiment de grandes chances qu'ils perdent ce procès, mais le but...
Mais il faut quand même se préparer en face, et oui, c'est ça.
Voilà,
on ne peut pas y aller les mains dans les poches.
Ça nous fait perdre de l'argent, ça nous fait perdre du temps, et donc on a dû prendre un avocat qui va nous défendre. Là, le fait d'annuler la procédure 3 jours avant, c'est encore des rebondissements organisationnels. On avait organisé un rassemblement devant le tribunal, on a programmé une conférence de presse en invitant les médias locaux. Tout ça doit être annulé au dernier moment. Donc ils font exprès. C'est-à-dire que lui, il se sert de sa protection fonctionnelle, ça s'appelle comme ça, parce que de toute façon, lui, c'est la mairie de Perpignan qui paye ses frais. Donc ça l'atteint pas. Il enchaîne des procédures comme ça. Sauf que nous, effectivement, des frais d'avocat, plus des frais de transport pour les membres de l'équipe de rédaction, plus la charge mentale de cette procédure qui finalement n'est toujours pas soldée 2 ans après, ça nous prend du temps et on a peu de temps et on n'a pas beaucoup de sous. Donc tout est fait pour que ça nous épuise en fait. Mais sauf qu'on va pas se laisser faire et qu'on va se défendre. Et voilà, mais c'est en train de devenir, c'est des choses qui sont en train de devenir systématiques. Et c'est pour ça que en ce moment, il y a un fonds qui est en train d'émerger qui s'appelle le fonds Riposte, qui est mis en place par donc c'est une ONG qui s'appelle Media Defense. Et le Fonds pour la presse libre qui sont en train de s'unir pour faire un fonds en fait qui va aider les médias qui seront victimes de procédures bâillons dans les prochains temps. Donc nous on va peut-être, si d'ici là ce fonds est mis en place, peut-être qu'on va les solliciter pour notre cas particulier, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que c'est les procédures comme celles dont on est victime aujourd'hui, ça va s'enchaîner pour la presse libre.
Oui, il y en a une qui vient de démarrer, je crois, pour les camarades du Point à Montpellier aussi.
Ouais.
Sur certainement le même genre de propos qui mettent en relation des fois les connivences entre la police, l'extrême droite, etc., et les répressions des mouvements sociaux.
Tout à fait.
Bon, ma question suivante, donc tu y as répondu, c'était justement est-ce que vous arriviez à vous croiser entre différents médias pour déjà pour partager les expériences et puis peut-être partager les moyens de défense. Visiblement, ça se fait, mais tout ça, comme tu le dis, c'est toujours du temps et souvent aussi de l'argent qu'il n'y a pas beaucoup, on va dire, dans les caisses des médias, de la presse libre.
Si je peux me permettre de t'interrompre, tu sais, on est aussi en train de... On s'organise aussi entre médias en ce moment. On a monté un syndicat l'année dernière qui s'appelle le syndicat de la presse par pareil. Et on est une trentaine de médias pour l'instant. Donc ça, c'est... On va aussi s'organiser avec ce syndicat. Bon, on est encore en pleine structuration, mais en tout cas pour dire que on est en train de créer un réseau entre nous pour aussi faire lien et être là les uns pour les autres quand ça va pas bien, mais aussi pour essayer de porter nos revendications devant les différentes commissions d'attribution de subventions. Et aussi, pourquoi pas, de s'échanger des articles, de réfléchir à des formes communes. Donc, on est vraiment en train de se structurer entre médias camarades.
Très bien. Et alors, du coup, pour compléter, juste de l'autre côté, du côté, on va dire, institutionnel ou, on va dire, fonction publique, la presse est normalement accompagnée partiellement, hein, tout comme nous avec les radios associatives, par des subventions, des choses comme ça. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça fonctionne et surtout vers quoi est-ce qu'on va là avec les nouvelles mesures? Je ne sais pas si vous êtes impacté aussi par cette espèce de nouvel coup de moissonneuse là dans le monde associatif et culturel.
Eh bien, alors, la presse, évidemment, c'est un peu compliqué là en ce moment. Enfin, alors, il y a différents types d'aides à la presse suivant... quelle périodicité on a, quel territoire on couvre. Donc nous, avec l'Empaillé, on demande une chose un peu particulière qui s'appelle le fonds d'aide aux médias d'information de proximité. Donc c'est pour les journaux régionaux, locaux. Donc dans le cadre de cette aide-là, effectivement, là, cette année, il y a eu des médias. Donc nous, à l'Empaillé, pour cette année, on est passé à travers les mailles du filet. Donc on a à peu près le même montant que les années précédentes. Mais ce n'est pas le cas de d'autres médias amis, notamment sur le plateau de Millevaches, IPNS et La Trousse Corrézienne, qui, eux, ont vu carrément leurs subventions totalement supprimées, avec des prétextes un peu fallacieux, comme quoi leur économie ne serait pas... autosuffisante, enfin qu'en gros ils font pas assez d'efforts pour être se développer économiquement. Mais ce qu'il y a derrière tout ça, c'est aussi bien sûr une mainmise de plus en plus, une main de fer de l'État via les préfectures, et que quand on est un média qui est catégorisé très à gauche, au bout d'un moment, ça ne passe plus, quoi. Ça ne passe plus. Donc ça, on commence par soit diminuer les subventions petit à petit, soit carrément les supprimer. Donc ça, je pense que oui, ça plane sur au-dessus de nos têtes. Et c'est pour ça qu'on essaye de faire un maximum d'efforts pour, avec ce syndicat, pouvoir réussir à être représenté dans ces instances-là, ce qui nous permettrait d'être à l'intérieur et de voir, d'assister aux discussions sur les attributions des subventions, parce que pour l'instant, ils ont un pouvoir discrétionnaire, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun moyen de savoir ce qui s'est dit dans les commissions.
Et concrètement, ça vous impacterait, ça vous toucherait beaucoup ?
Ah bah oui, parce que nous, on a quand même une économie un peu fragile. Je pense que les subventions publiques, ça représente à peu près, on va dire, un quart de notre budget. Donc c'est sûr que si on a pu cette aide-là, alors là c'est sûr qu'on peut faire une croix sur notre micro-salariat, mais voilà, c'est sûr que ça fragiliserait énormément le journal.
Ok, on peut peut-être terminer par une note d'encouragement, une note positive justement, puisqu'on s'organise par la base. Votre journal, il est donc disponible partout, en papier, je le disais. Vous mettez aussi des articles après en ligne, une fois qu'on va dire que le papier a bien circulé. Il est disponible à 4€ et il y a possibilité de s'abonner. C'est que vous en avez pas mal des abonnements et vous continuez à encourager, j'imagine, cette démarche.
Ouais, les abonnements, c'est vraiment le socle, je pense, qui permet aux publications comme la nôtre de tenir, parce que voilà, c'est fixe. Nous, on a différents types d'abonnements qui s'adaptent à tous les budgets. On a même un abonnement pour les fauchés à 10€ pour 4 numéros. On en a pour de soutien à 30€. Mais enfin, c'est vraiment libre, mais c'est vrai que s'abonner à un média, c'est vraiment lui permettre de tenir dans la durée. Donc là, pour l'instant, je pense qu'on a 900 abonnés, ce qui est pas mal, hein, déjà, mais, Mais il faut qu'on garde ce socle solide d'abonnés pour pouvoir effectivement se projeter dans l'avenir de manière un peu plus stable.
Et tout ça, c'est donc sur la page lampaillé.fr. C'est facile, il y a s'abonner, faire un don, diffuser. Et aussi les anciens numéros qu'on peut retrouver, justement, qui sont accessibles en ligne avec pas mal d'articles. Et puis de la géo. Enfin voilà, on a parlé des choses régionales, mais aussi j'ai oublié de le dire, aussi des articles, des fois des géopolitiques. Là, j'ai cliqué au hasard et j'ai vu, par exemple, un reportage à Kobané, qui donc sur le numéro de cet été, on parle du planning familial. Enfin voilà, il y a vraiment beaucoup des sujets sur lesquels nous aussi on communique sur nos ondes. Donc n'hésitez pas à aller encourager l'Empaillé et à lire surtout leurs articles. Nina, merci beaucoup. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose pour nos auditeuristes avant qu'on se quitte ?
Moi, oui, parce qu'on aimerait bien aussi venir présenter le journal un peu, faire un petit tour de région. Et puis voilà, ça peut être l'occasion de se rencontrer si on vient par chez vous. Et puis pareil, il y a aussi être diffusé dans tous ces petits lieux associatifs. C'est vraiment le cœur de ce qu'on essaye de faire en ce moment. Donc n'hésitez pas aussi, si vous avez une petite épicerie chouette à côté de chez vous, un café asso, une petite librairie, un stand sur le marché, et que vous avez envie de prendre des journaux en dépôt-vente, voilà, on a des systèmes où c'est pas engageant financièrement pour la personne qui le fait, mais nous, ça nous aide beaucoup et ça nous aide à être plus visible. Donc n'hésitez pas aussi à nous contacter pour ça.
Et pour faire le point à la radio, j'ai oublié de préciser, il y a aussi quelques extraits sonores qu'on peut retrouver sur votre site, sur l'onglet podcast, avec des entretiens, mais aussi des propositions fiction, je ne sais pas. À vous d'aller voir, il y a aussi du son, en tout cas, sur le site de lampaillé.fr. Merci beaucoup, Nina.
Merci.
Escapade.
Et vous ?
En studio.
Ou en balade autour d'un micro.
L'émission qui vous donne la parole.
Escapadez-vous.
Les initiatives locales se racontent à l'antenne.